commencer. Je suis Hubert Kempf, le nouveau président de l'ASSE. Je suis très heureux de présider cette conférence Jean-Jacques Macron, qui sera donnée par le professeur Cabori et qui sera introduite par Bruno De Creuse, spécialiste du sujet et donc qui connaît et le sujet et Pierre Moreau.
D'abord, je suis ravi et honoré de présenter Pierre-André Cabori, qui est certainement un des économistes français les plus brillants et les plus intéressants. Je vais procéder rapidement. Je vais d'abord vous rappeler qui est Pierre-André Cabori, parce qu'en fait, on en a tous entendu parler, mais est-ce qu'on sait réellement qui il est? Alors, il est normalien, il a un doctorat à l'université Paris 1, soutenu en 1981, une première carrière en France, avec des postes plutôt brillants, et puis en 1997, un départ aux États-Unis, professeur à l'université de Chicago en 1997, 2005, changement d'université, professeur à l'université de Columbia. Alors évidemment, ce parcours professionnel brillant, il est associé à une certaine trajectoire de publication dont on peut imaginer la qualité, et qu'il a été en particulier, ce parcours est peut-être visible en particulier par le fait qu'il a été éditeur au Journal of Political Economy de 2001 à 2005. C'était donc la revue qui avait été évoquée hier dans le débat sur les publications. Alors, les domaines de recherche couverts sont plutôt ceux d'un microéconomiste avec un certain penchant pour la théorie, même s'il y a des travaux appliqués. Alors, c'est d'abord un économiste du travail et un économiste de la famille, mais c'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur l'assurance, qui a travaillé sur les tâches solaires et qui a travaillé sur la théorie de la demande. Donc, quelqu'un qui couvre un large spectre de travaux. Alors, comment je l'ai rencontré pour la première fois? En fait, c'est amusant parce que je ne l'ai jamais rencontré parce qu'il est parti aux États-Unis en 97. Et je ne l'ai jamais rencontré, mais en revanche, en 2004, je préparais ce fameux concours qui fait la spécificité de notre pays, le concours d'agrégation, et j'étais un peu déprimé par les clubs de lecture de problèmes économiques qui nous préparaient au concours. Et j'avais décidé de lire quelques articles jugés fondamentaux qu'on ne prend pas le temps de lire puisqu'on se spécialise. Et l'un d'entre eux, on m'avait conseillé un certain Pierre-André Cabori. C'était Collective Labor Supply and Welfare du Journal of Political Economy. C'est un article fondateur dans ce champ de l'économie du travail et de l'économie de la famille. Probablement, plusieurs d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc c'est un article qui lance les travaux consacrés à l'offre de travail du ménage, où des membres qui ont des fonctions d'utilité distinctes prennent des décisions efficaces et donc chacun choisit son offre de travail. Donc c'est un article très connu parce qu'il explique, il explique de façon très claire comment on peut comprendre le problème en deux temps, avec cette fameuse règle de partage du revenu au sein du couple, et puis chaque membre du couple prenant ensuite sa décision d'offre de travail. Il discute aussi les problèmes d'identification, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut remonter des comportements effectifs d'offre de travail aux paramètres structurels, enfin aux préférences en tout cas. Et c'est un article qui était suivi par une très grande littérature empirique et théorique à laquelle il a largement contribué. Alors, plus récemment, et c'est ce qui explique pourquoi je le présente aujourd'hui, il a travaillé sur des modèles d'appariement, mais des modèles d'appariement consacrés à un marché très particulier, qui est celui du mariage. Et dans ce contexte, alors, je vais juste un petit mot sur le sujet. Christopher Pissarides, qui a consacré tous ses travaux au modèle d'appariement, avec des frictions sur le marché du travail, Christopher Pissarides, quand on lui demandait comment il pourrait motiver son travail, il avait dit, en fait, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Il disait, ben en fait, on prend trois grandes décisions dans cette vie. Trouver un emploi, trouver une maison, trouver un partenaire. Et effectivement, il disait, c'est tout ce dont parlent les modèles d'appariement. C'est vrai, sauf que lui, il a travaillé sur les modèles consacrés au marché du travail. Il a un peu travaillé sur le marché du logement, mais il faut reconnaître que le marché du mariage, par contre, n'avait pas fait l'objet d'une attention très forte. Et en revanche, c'est bien à ce marché que sont consacrés les travaux de Pierre-André Cabori depuis un certain temps, depuis quelques années. Et donc, il propose des modèles d'appariement qui précisent de façon qui nous expliquent très proprement comment des agents hétérogènes, des hommes et des femmes, se marient et comment se forment les mariages, comment ils peuvent se dissoudre aussi. Ce sont des modèles avec ou sans friction, beaucoup de modèles sans friction malheureusement, je dois dire. Par défaut. Il faut y remédier rapidement. Et alors c'est une démarche complète puisqu'il y a des modèles théoriques et ensuite on propose l'estimation structurelle de ces modèles. Et enfin on fait de l'analyse de politique publique. Alors je ne vais pas déflorer davantage le sujet et je vais vous encourager à écouter Pierre-André Cabot.
Merci beaucoup.
Je vous change de...
Oui, de mon point de vue, les 5 minutes qui viennent de s'écouler étaient les meilleures de la soirée. Malheureusement, pour vous, ça ne va pas s'arrêter là. Bon, c'est un honneur pour moi d'être là. C'est un honneur de donner la conférence plénière du congrès de l'AFSE, mais c'est une émotion particulière due au fait qu'elle porte le nom de Jean-Jacques Lafont. Jean-Jacques a toujours été une sorte de modèle. Jean-Jacques était un des meilleurs théoriciens de sa génération. En même temps, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de travaux empiriques, y compris les travaux empiriques de la plus haute qualité. En fait, la première fois que j'ai vu le nom de Jean-Jacques, j'étais jeune étudiant, et c'était sur des papiers de macroéconométrie avec Gourieru et Montfort sur l'estimation des modèles macro-anticipation rationnelle. Et surtout, Jean-Jacques est quelqu'un qui partait de vrais problèmes économiques. C'est-à-dire la théorie était nécessaire pour comprendre des réalités économiques, mais sa vraie motivation, c'était des questions économiques, et en ça, c'était un grand économiste. Donc, donner une conférence à Jean-Jacques Lafont, c'est vraiment quelque chose de très particulier pour moi. Alors, je vais parler de modèles d'appariement, et effectivement, je vais parler essentiellement de modèles de mariage, encore qu'à un moment donné, je vais prendre la précaution de dire ce genre de modèle s'appliquerait aussi bien à des relations employeur-employés, à des relations de localisation, et en fait on est en train de travailler notamment avec André de Palma et d'autres co-auteurs sur des questions d'utiliser ce genre de modèle pour des problèmes de localisation. Enfin, je vais parler surtout du mariage. Alors j'ai commencé par des faits. Voilà. Ça, c'est extrait d'un papier de Gary Baker, Kevin Murphy et Vince Hubbard, qui est paru récemment. Alors, ce que vous avez ici, c'est le pourcentage de la population qui a ce que les Américains appellent un college education, c'est-à-dire bac plus 4. Ici, vous avez les pays développés. Pays développés, le critère est très simple. Ces pays-là, ils ont un PNB par tête supérieur à la médiane, et ces gens-là, ils ont un PNB par tête inférieur à la médiane, par décennie. Et puis surtout, vous avez les hommes en sombre et les femmes en clair. Alors d'abord, vous avez cette augmentation très nette, hein, ici, mais aussi ici. Mais d'autre part, ce qui est vraiment spectaculaire, c'est cette montée de l'éducation des femmes. Si on demandait quel est le phénomène économique majeur de ces 30 dernières années, quitte à surprendre, je dirais c'est ça. C'est des changements telluriques, c'est des changements de très grande ampleur. Juste pour vous donner une idée des ordres de grandeur, regardez quel est le montant du capital humain que représente ce genre d'évolution. On parle d'une population mondiale de 6 milliards de personnes. En termes quantitatifs, ça représente des montants de capital très nettement supérieurs aux investissements en capital physique sur la même période. Donc déjà, il y a une évolution vraiment spectaculaire. Et alors en plus, ce qui est très frappant, c'est de voir que dans les pays développés, les femmes maintenant sont plus éduquées que les hommes. Je vais vous donner une autre slide qui montre ça encore mieux. Mais même dans les pays pauvres, le pourcentage de femmes qui ont une éducation bac plus 4 qui était infime en 70, en gros 5 fois moins que celle des hommes, est maintenant pratiquement à la hauteur de celle des hommes. En fait, il y a pas mal de pays à bas revenus dans lesquels les femmes ont dépassé les hommes. Donc il y a un trend démographique ou démographico-culturel très lourd, très long, qui ne s'arrêtera pas et qui va avoir des conséquences. Ce dont je vais parler, c'est de ces conséquences, ou plus exactement du genre d'outils méthodologiques qu'on aurait envie d'utiliser pour penser ses conséquences. Alors voilà mon deuxième slide. Ce que vous avez en bas, c'est le PNB par tête. en log. La médiane, c'est ce trait vertical qui est ici. Et là, vous avez la différence d'éducation mesurée par la différence des taux de college education. Donc, c'est la différence entre les deux colonnes que vous aviez avant. Si, je ne vous montre pas le graphique en 70 parce que c'est très simple. Tout est au-dessous de la ligne rouge. La ligne rouge, c'est zéro. Donc, la ligne rouge, c'est égalité d'éducation entre les hommes et les femmes. En bas, c'est les hommes sont plus éduqués que les femmes. En haut, c'est les femmes sont plus éduquées que les hommes. En 70, vous en avez quelques-uns qui sont sur la ligne, tous les autres sont en bas. Ce que vous voyez ici, c'est que dans les pays riches, les deux tiers des pays, les femmes sont plus éduquées que les hommes. Et même dans les pays pauvres, enfin au-dessous de la médiane, vous avez des pays dans lesquels les femmes sont plus éduquées, parfois nettement plus éduquées. Encore une fois, c'est le même phénomène. Alors, parlons des États-Unis. Bleu, c'est les hommes, rouge, c'est les femmes, et vous avez trois types de lignes. La ligne continue, c'est ce qu'on appelle some college, c'est disons bac plus 2. La ligne en pointillé large, c'est college education, donc c'est bac plus 4, et ça, c'est bac plus 5 et au-delà. Donc c'est master, PhD, etc. Et vous voyez que dans tous les cas, les femmes ont dépassé les hommes. Au niveau some college, ça s'est passé vers le milieu des années 80. College, c'est vers le début des années 90 et au début des années 2000, même sur ce qui est troisième cycle. Alors, une chose qui est particulièrement frappante pour un économiste, c'est ça. Si vous prenez cette période-là, c'est une période où les travaux empiriques nous montrent que ce qu'on appelle le college premium, c'est-à-dire l'augmentation de salaire liée au fait que vous ayez un diplôme bac plus 4 par rapport à un diplôme high school, c'est-à-dire juste bac, a augmenté de façon spectaculaire. Donc pour un économiste, il se passe quelque chose de très naturel. Vous avez une incitation qui augmente. Ça rapporte beaucoup plus en termes de revenus futurs d'avoir une éducation college, et les gens répondent en allant plus au college. Sauf que cette réponse est complètement asymétrique suivant les sexes, puisque vous voyez que pour les femmes, il y a une réponse très, très forte, puisque ce pourcentage, surtout au niveau des PhD, on sait que c'est là que la prime a augmenté le plus, ça passe de 4% à 12%, pratiquement ça triple. Pour les hommes, ça ne bouge pas. Le seul mouvement qu'il y a, c'est une légère décroissance. Voilà un problème intéressant. Vous mettez des agents économiques, vous les soumettez à exactement les mêmes incitations, ils réagissent de façon complètement opposée. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, il y a un papier dans lequel... Enfin, il y a deux papiers, un papier théorique et un papier empirique dans lequel on parle de ça. Je ne vais pas parler de ce papier précisément, parce qu'il y a autre chose que je voudrais vous montrer. Je ferai une allusion à ça tout à l'heure. Mais voilà le genre de questions qu'on a envie de se poser. Alors, dernier slide empirique. Celui-là, je l'aime beaucoup. Vous prenez l'ensemble des ménages américains. En fait, ce qu'on prend, c'est les ménages âgés entre 30 et 40... Dans lesquels les gens ont entre 30 et 40 ans. Et on les classifie en trois groupes. Même niveau d'éducation, l'homme est plus éduqué que la femme est plus éduquée que l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours le cas, maintenant, comme dans les années 1930, hein, je remonte assez tôt ici, c'est les années de naissance. Hein, donc, mais ça fait une quarantaine d'années que le nombre de ménages dans lesquels l'homme et la femme ont la même éducation est à peu près constant. Je vais vous parler tout à l'heure d'appariement assortatif, et ça, c'est une des indications. Mais dans les ménages où il y a des différences d'éducation, ben maintenant, en moyenne, c'est plutôt les femmes qui sont plus éduquées que les hommes. Bon, ça, c'est des données que je trouve extrêmement spectaculaires. On n'en parle pas assez, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est des problèmes importants. C'est des problèmes importants parce que c'est des décisions importantes, mais surtout, c'est des problèmes importants parce que si on veut comprendre les comportements des couples, et les comportements des couples, pas tellement sur les détails, pas tellement sur la marque de dentifrice qu'ils vont acheter, mais sur des choses fondamentales, du genre le niveau d'éducation qu'on va donner aux enfants, les investissements en termes de santé, les investissements en termes de capital humain, le niveau d'épargne, etc., on peut penser, et en fait, on a pas mal d'indications empiriques qui le suggèrent, que les femmes et les hommes ont en moyenne des préférences différentes et que ce genre de changement peut avoir un impact. Donc c'est de ça que je vais essayer de vous parler. Alors, un impact que je voudrais mentionner en passant, c'est l'impact sur l'inégalité, parce que ça illustre à la fois pourquoi ces choses sont importantes et d'un autre côté, à quel point il est difficile de les penser correctement. D'abord, la première chose que remarque Bertley, c'est qu'il y a la corrélation entre les revenus du mari et de la femme ont augmenté considérablement sur la période 79-87. En fait, ils sont passés, en termes de rang de corrélation, ils sont passés d'un nombre très faible à un nombre beaucoup plus important. Alors, ça a, ce que dit Birthless, enfin, ça c'est une étude purement descriptive, hein, ça a augmenté l'inégalité, on voit bien pourquoi. Si vous prenez deux populations très différenciées, mais que vous les mariez au hasard, vous aurez beaucoup moins d'inégalités entre couples que si vous les mariez de façon assortative. Et alors, Birthless continue en disant, si on décompose l'accroissement de l'inégalité au cours depuis les années 80, un tiers vient du fait qu'il y a de plus en plus de ménages de personnes seules, et un autre sixième, en plus de ça, donc au total en une moitié, qui viennent du fait que les appariements sont plus assortatifs. Ah, entre parenthèses, je suis aux États-Unis depuis 14 ans, je ne sais plus parler français, en particulier, matching, j'ai appris que ça se disait appariement, mais assortative, je ne sais pas comment ça se dit, donc j'ai dit assortativité, et désolé pour le franglais, mais si vous avez une traduction meilleure, je suis preneur. Alors, ça, d'une part, c'est intéressant, d'autre part, c'est très, très frustrant parce que, par exemple, prenez cette affirmation-là, qu'est-ce que ça veut dire? Un tiers de l'accroissement d'inégalité vient de l'accroissement des ménages mono-individuels. Bon, inégalité entre quoi? Est-ce que c'est l'inégalité entre ménages? Mais à ce moment-là, il est quand même difficile de comparer le revenu d'un ménage, d'un couple, au revenu d'une personne seule. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le revenu quand il y a un couple, on prend le revenu du couple et on le divise par deux. Ou on utilise des échelles d'équivalence. Donc on va dire, c'est pas tout à fait 2, on va le diviser par un peu moins que 2 parce qu'il y a des biens publics, etc. Mais quelque part, il y a une hypothèse que moi, j'aime pas du tout, qui est la répartition des ressources à l'intérieur du ménage est restée la même. Quelle qu'elle ait été, quelle que soit la règle que vous preniez, elle n'a pas changé. Donc, en gros, si vous pensez en termes de marché du mariage ou quelque chose comme ça, voilà un marché sur lequel on a une énorme variation de l'offre, une énorme variation de la demande, mais l'hypothèse qu'on va faire pour les travaux empiriques, c'est que le prix n'a pas bougé. Pour un économiste, ce n'est pas très sérieux. Néanmoins, c'est ce que font ce genre de travaux. Alors, en particulier, quand on me dit il y a un accroissement d'inégalité parce qu'il y a de plus en plus de personnes seules, je voudrais bien comparer l'utilité de ces personnes seules à l'utilité qu'auraient eu ces personnes seules si elles étaient mariées, ce qui n'est pas du tout la même que le revenu du couple moyen divisé par deux. En particulier parce que si elles sont seules, c'est souvent parce qu'elles ont choisi d'être seules. Je veux dire, il y a un des phénomènes marquants derrière ça, c'est que les gens se marient moins. Si les gens se marient moins, c'est probablement pas parce que d'un coup, il y a une épidémie de circonstances extérieures qui ont empêché les gens de se marier, c'est probablement parce que les gens ont moins intérêt à se marier maintenant qu'avant. Donc on prend des phénomènes qui sont partiellement endogènes et on compare des choses qui ne sont pas comparables. Je voudrais citer un papier que j'aime beaucoup. C'est un papier de Jeremy Lees et Shannon Seitz qui est paru dans Aristotle, je crois, en 2009, qui part d'un point de vue qui, à mon avis, est profondément correct, qui est le suivant. À la fin des fins, ce qui nous intéresse, c'est pas l'inégalité entre ménages, c'est l'inégalité entre individus. Donc il y a deux couches d'inégalité. Il y a l'inégalité entre les ménages, mais il y a aussi l'inégalité à l'intérieur des ménages. Et en fait, si on veut parler en termes d'inégalité, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est pas les 10% de ménages les plus pauvres, c'est 10% d'individus les plus pauvres. Peut-être que ces individus sont seuls, mais peut-être que ces individus sont mariés. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dedans? Jusqu'à présent, on ne disait rien parce qu'on ne savait pas ouvrir la boîte noire. On avait des couples, on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur. Tous les travaux sur le modèle correctif qui ont été rappelés en introduction, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement ça. C'est essayer de dire, si on regarde attentivement, si on regarde la structure d'offre de travail, si on regarde la structure de consommation, on est capable de dire des choses sur ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire. On peut être capable d'ouvrir la boîte noire. Alors, c'est ce que font Jeremy et Shannon dans ce papier. Et en fait, ils trouvent quelque chose d'extrêmement intéressant, juste pour vous dire en deux mots la conclusion de leur papier. Donc, ils utilisent une approche de type collective pour regarder, pour réestimer l'évolution de l'inégalité dans Grande-Bretagne au cours depuis les années 80. Ce qu'ils trouvent, c'est que premièrement, on sous-estime considérablement l'inégalité. C'est-à-dire, il y a cette couche supplémentaire d'inégalité intra-ménage qui se rajoute à l'inégalité entre-ménage, et cette couche est significative. Mais que d'autre part, la conclusion classique que l'inégalité a beaucoup augmenté depuis les années 80 doit être revue considérablement à la baisse, parce que c'est vrai qu'il y a eu un énorme accroissement de la dispersion, par exemple, des salaires, des revenus, etc. Donc il y a une énorme dispersion de l'inégalité entre ménages. Mais d'un autre côté, un phénomène frappant sur la même période, c'est l'augmentation considérable de l'offre de travail des femmes, pratiquement maintenant au Royaume-Uni l'offre de la des taux de participation dans les classes d'âge significatives sont pratiquement les mêmes entre les hommes et les femmes. Et ça, ça a eu un impact sur la distribution à l'intérieur des couples qui va en sens inverse. Donc on a eu une augmentation d'inégalité entre ménages, une diminution d'inégalité à l'intérieur du ménage et qui selon leurs calculs, compense plus de la moitié de la première. Alors, c'est... je ne vais pas parler de leur approche, hein, mais à mon avis, c'est une façon extrêmement intéressante de poser la question. Alors voilà les questions que moi, j'aurais envie de poser aujourd'hui. Si vous regardez l'allocation des ressources à l'intérieur du ménage, comment cette allocation est-elle affectée par les changements d'éducation, donc de revenus potentiels, qu'on a vus tout à l'heure? Il est impossible de penser que des changements de cette magnitude, le renversement du nombre de la dominance en termes d'éducation des sexes, le passage des taux d'éducation des femmes d'un tiers de celui des hommes à plus que celui des hommes, etc. Il est impossible de penser que ça n'a pas eu d'impact. On voudrait comprendre cet impact, d'une part parce que c'est un intérêt en soi, en termes d'inégalité, en termes de compréhension de la société, et aussi parce que ça va avoir un impact sur les comportements. Quel genre d'outils conceptuels peut-on utiliser pour regarder ces choses-là? On voudrait un cadre conceptuel. C'est des problèmes d'équipe générale. Première remarque. On ne peut pas faire de l'analyse partielle. Là. C'est les revenus, l'éducation augmentée pour l'ensemble de la population féminine, avec de l'hétérogénéité, mais c'est des phénomènes globaux. Deuxième remarque, ça ne peut pas être traité par les modèles macro particuliers, parce que je n'ai surtout pas envie de mettre des consommateurs représentatifs là-dedans. Au contraire, la chose la plus intéressante, c'est que j'ai de l'hétérogénéité, et je veux prendre en compte cette hétérogénéité. En particulier parce que j'ai ces idées d'inégalité, puis aussi parce qu'on sait que l'hétérogénéité a une grosse importance sur les comportements agrégés. Quelque part, ça serait plutôt donc une logique d'équipe générale. Le problème, c'est que les modèles d'équipe générale, en général, quand j'étais étudiant, c'était la grande mode. On a essayé de faire des modèles d'équipe générale calculables. On a arrêté, pas parce que ce n'était pas intellectuellement intéressant, mais parce qu'on n'y arrivait pas. C'est-à-dire que c'était tellement sensible, les résultats pouvaient fluctuer tellement en fonction des petites hypothèses qu'on mettait ou des valeurs qu'on donnait à des paramètres qu'on ne savait pas bien mesurer, que finalement, on s'est un peu découragé. Et alors, ce dont je vais essayer de vous convaincre, c'est que le genre de cadre dont je vais parler, qui sont des modèles sans friction, ils ont un énorme avantage. C'est que vous avez une technologie relativement simple qui vous permet de comprendre et de modéliser ces phénomènes d'équipe générale, y compris des phénomènes de répartition à l'intérieur des ménages, de façon relativement fine, en particulier avec de la vraie hétérogénéité à l'intérieur des populations. Alors, j'ajoute tout de suite, mais ça, ce n'est pas simplement pour être poli vis-à-vis de l'introduction, c'est parce que je le pense vraiment. Je fais surtout des modèles avec friction, j'ai fait quelques modèles avec du search. La principale raison pour laquelle je ne fais pas plus de modèles avec du search, c'est qu'il y a des gens très compétents, en fait beaucoup plus compétents que moi, qui travaillent qui travaillent exactement dans la même direction sur les modèles avec du search en particulier. Jean-Marc Robin a commencé à faire des modèles qui vont ressembler un peu à ce que je fais là, approche search. Il y a une chose que j'ai sur l'agenda, et j'espère y arriver dans les années qui viennent, c'est comprendre exactement du point de vue technique les relations et les différences entre les modèles d'appariement et les modèles de search. C'est probablement plus compliqué que ça en a l'air. Enfin, bon, dans le détail, on voit bien, hein, mais y a-t-il par exemple des résultats généraux? Pensez au papier de Scheimer et Smith qui prend les résultats de supermodularité dans un modèle d'appariement et qui ensuite dit qu'est-ce qui reste vrai si on a du search. Il y a quelque chose de semblable, mais les hypothèses sont assez différentes. Par exemple, la supermodularité ne suffit pas, il faut de la log supermodularité, etc. Je crois qu'il y a quelque chose devant nous, nous économistes, hein, qui essaierait de comprendre exactement les relations entre ces deux lignes de recherche, de comprendre en quoi elles peuvent s'enrichir les unes les autres. Je suis sûr qu'il y a des tas de choses dans les techniques de search qui pourraient être utiles pour les modèles de matching et inversement. Et surtout de voir, du point de vue empirique, en quoi est-ce qu'on peut mener les deux tâches simultanément. Est-ce qu'on peut... Bon, donc ça, c'est dans les travaux à faire. Mais aujourd'hui, je parlerai essentiellement des modèles sans friction. Autre question, quel impact sur la structure de dépenses et notamment sur les investissements en capital humain? Si on accepte, et ça on sait faire la théorie et on a les évidences empiriques, que du revenu allant à la femme n'a pas du tout le même impact que le même revenu allant au mari en termes de structure de la consommation, en particulier en termes de dépenses sur les enfants, en termes d'investissement de long terme, en termes de formation de capital humain, etc. C'est ce tremblement de terre qu'on a vu en termes de changement des niveaux d'éducation, donc quelque part de rapport de force à l'intérieur du couple, quel impact je peux prédire sur les investissements en capital humain. Juste une remarque là-dessus. Imaginez que vous demandez à quelqu'un dans la rue, qui n'est pas économiste, juste quelqu'un de bon sens, est-ce que vous prenez les allocations familiales, est-ce que ça, dans un pays en voie de développement, est-ce que ça fait une différence de les payer au mari ou à la femme ? J'ai une anecdote d'ailleurs. Mon copain Horacio Atanasio était en train de travailler exactement sur ce genre de questions au Mexique, c'est à partir de l'enquête Progrès. Et comme c'est un homme très consciencieux, il est allé sur le terrain, il est allé rencontrer les gens, il a posé des questions, et notamment il a posé cette question-là. Donc il a posé aux femmes dans les ménages pauvres mexicains qui recevaient Progrès, enfin qui maintenant s'appelle Oportunidades, il a posé cette question, est-ce que ça fait une différence que ça soit payé à vous plutôt qu'à votre mari. Et il m'a dit que ça a été calamiteux parce que d'une seconde à l'autre, ils ont perdu tout respect pour moi. Elles me considéraient comme le professeur éduqué venant d'Angleterre, etc. Et d'un seul coup, elles se sont aperçues que je posais des questions complètement stupides. Elles m'ont dit avec un peu de condescendance, mais évidemment que ça fait une différence, qu'est-ce que vous croyez ? Et puis elles ont considéré que c'était l'une des questions les plus stupides qu'elles aient jamais entendues. Elles m'ont écouté avec beaucoup moins d'intérêt. Je pense que tout le monde répondra à ça. Ça fait une différence. Néanmoins, je vous rappelle que le modèle dominant de représentation des ménages jusque dans les années 90, c'était un modèle dans lequel le ménage avait une fonction d'utilité qui était maximisée sous contrainte budgétaire. Donc on faisait l'hypothèse qu'il était totalement impossible qu'un dollar donné à la femme ait un impact différent sur les consommations du même dollar donné au mari. Alors maintenant, enfin, encore une fois, on parlait du modèle collectif. Ce qu'on a essayé de faire dans le modèle collectif, c'est essayer d'accepter l'idée que ça puisse faire une différence, mais de modéliser ça, comment est-ce qu'on pense ce genre de phénomène. Donc, je voudrais revenir exactement à ce genre de questions, mais en prenant un type de choc très particulier, qui est le changement, non pas un choc particulier qui affecte un ménage en équipe partielle, mais un changement global qui affecte une totalité d'une population, disons des modifications complètes de la distribution de l'éducation et des revenus, au niveau du marché, au niveau de l'équipe générale tout entier. Il y a des problèmes liés, alors ça c'est des problèmes dont je ne parlerai pas, mais il y a deux papiers, il y a un papier avec Yoram Weiss et Murat Yegun, qui est le papier théorique qu'on a publié il y a 2 ans, et puis il y a un papier en cours avec Bernard Salanier et le même Yoram Weiss, dans lequel on fait l'application empirique, mais qui est juste pour vous donner une idée de l'intuition qui est derrière, vous vous souvenez la différence complète de réponse entre les hommes et les femmes, en termes de demande d'éducation, à des incitations qui apparemment étaient les mêmes. Bon, le papier théorique, on dit la chose suivante. Quel est le rendement de l'éducation ? Il y a un rendement qui est sur le marché et ça, on l'observe directement. C'est le fait que vous aurez des salaires plus élevés. Il y a un autre rendement qui est un peu plus difficile à observer, mais qui est au moins aussi important, qui est que si vous avez de l'éducation, votre probabilité de vous marier changera. La personne que vous épouserez en distribution de probabilité, ne sera pas la même. Et la répartition des ressources, le surplus total que vous dégagerez ne sera pas le même, et la répartition de ce surplus entre vous changera. Alors ça, ces quatre composantes, ça définit ce qu'on appelle la prime maritale d'éducation, enfin la marital college premium dans le papier. Et notre idée, c'est de dire, autant la prime sur le marché, les augmentations de salaire, c'est pratiquement les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les travaux empiriques nous disent qu'il y a très peu de différence. Autant ça peut changer. Alors, le papier théorique dit, vous pouvez construire et calibrer un modèle raisonnable qui explique, en fait, les différences de réponse entre les hommes et les femmes à l'éducation. Et le papier empirique essaye d'estimer ce modèle-là. Ce qui est assez joli, c'est que le modèle, ici, est estimé uniquement à partir des caractéristiques du marché du mariage. Et l'une des choses que je vais essayer d'expliquer maintenant, c'est que ce que j'adore dans ces modèles d'appariement, c'est que vous prenez deux populations, les conditions d'équilibre de votre modèle vous donnent de façon endogène la répartition du surplus à l'intérieur du ménage. Et ça, c'est la clé de tout, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez essayer d'estimer un modèle à partir des patterns, des régularités de mariage, d'en déduire ce que la théorie prédirait en termes de répartition à l'intérieur, et puis ensuite de vous dire, si, quand les gens choisissent leur investissement et sont motivés par ce genre de considération, est-ce que ce qu'on prédit à partir de notre modèle fondé sur le marché du mariage est compatible avec ce qu'on observe en termes de comportement de demande d'éducation. Et c'est assez fort parce qu'on fait des prédictions sur la demande d'éducation à partir de données qui n'ont rien à voir avec la demande d'éducation, mais qui ont uniquement à voir avec les caractéristiques du marché du mariage. Alors ça, malheureusement, j'en parlerai pas, mais je parle jusqu'à quand, d'ailleurs ?
5h30,
ok. Je vous inflige un peu de théorie. J'ai été formé comme mathématicien, et en plus, c'est de la belle mathématique. Entre parenthèses, vous savez qu'il y a eu 2 médailles Field françaises l'an dernier, et l'un des deux, Cédric Villani, est notamment connu pour ses travaux sur les modèles mathématiques de transport optimal. Alors, juste le modèle d'appariement pour les nuls. Quelles sont les grandes idées dans ces modèles d'appariement ? Il y a 3 grandes familles qui apparaissent, l'appariement sans transfert d'utilité, l'appariement sous utilité transférable et ce que j'appelle les utilités imparfaitement transférables. Alors, une structure commune, vous avez 2 populations, les hommes et les femmes. Vous avez une mesure, enfin une distribution sur l'espace des hommes, distribution sur l'espace des femmes. A priori, ces espaces peuvent être multidimensionnels, ça peut même être de dimension infinie. Qu'est-ce qu'on appelle un appariement ? Ben, c'est une mesure sur l'espace produit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous dit pour monsieur X, madame Y, quelle est la probabilité qu'ils se marient ? Sachant qu'en général, dans un modèle de matching sans friction, ça sera 0, mais pas toujours. Enfin, ça sera 0 ou 1, mais pas toujours. On peut avoir des solutions, des stratégies mixtes. Dans un modèle de search, ça sera positif sur un espace ouvert. Mais... Et puis, il y a le concept qu'on a, c'est un concept de stabilité. Alors, le concept de stabilité, juste pour mémoire, c'est quelque chose d'assez naturel. Vous dites qu'un appariement est stable si, premièrement, il n'y a pas de personnes mariées qui préfèrent être célibataires. Et deuxièmement, il n'y a pas 2 personnes qui ne sont pas mariées ensemble et qui toutes les deux préféraient être mariées ensemble plutôt que leur situation actuelle. Alors maintenant, les 3 types de modèles. Le premier modèle, c'est les modèles sans transfert d'utilité. Donc ça, c'est Gell-Chapley. Quelle est la structure ? La structure, c'est que si vous mariez M. X avec Mme Y, il y a un certain gain pour M. X, qui est U de XY, et un certain gain pour Mme Y, V de XY. Alors X, c'est un vecteur de caractéristiques. Disons, pour simplifier, pour le moment, X est un revenu, Y est un revenu. On a appliqué ça dans des tas de domaines, ça peut être l'éducation, ça peut être multidimensionnel, etc. Mais utilisons juste le revenu pour fixer les idées. Alors, ce qui est crucial ici, c'est que le gain de M. X, il est impossible à M. X de diminuer son gain pour augmenter celui de Mme Y. Il n'est pas possible de transférer à l'intérieur du ménage. Alors, existence, il y a l'algorithme de Gell-Chapley, qui est une chose absolument magnifique. En plus, c'est une preuve constructive. On n'a pas unicité en général, mais on a une structure algébrique intéressante. En fait, on a une structure de treillis. Alors, du point de vue empirique, est-ce que en économie, ça sert à quoi ? Ben, ça a été énormément utilisé sur un problème particulier qui est l'affectation des étudiants à différentes écoles. Donc, vous êtes dans la ville de Boston, vous avez un ensemble d'écoles publiques, vous avez un ensemble d'étudiants, et vous posez la question, quels étudiants va-t-on accepter ou envoyer dans telle ou telle école ? Alors, il y avait un certain nombre de... Bon, ça dépend des préférences des étudiants, on va leur demander de nous les déclarer, ça dépend aussi, quelque part, des iterata des écoles. Est-ce qu'on peut mettre en place un mécanisme qui nous permette de réaliser ça ? Et question encore plus compliquée, qu'est-ce qu'on leur demande à ces mécanismes ? Par exemple, tirer au sort, c'est un mécanisme qui marche, mais ce n'est pas un très bon mécanisme. Alors, il y a toute une littérature là-dessus, sur, en particulier, qui met beaucoup l'accent sur la strategy proofness, le fait que les gens aient intérêt ou non, aient intérêt à dire la vérité, ou au contraire, aient intérêt à truquer leur déclaration de préférence. Il y a une autre application empirique que j'aime bien, c'est une étude des sites de rencontres, un très beau papier d'Ali Antaxou et deux de ses co-auteurs qui portent là-dessus. Cela étant, en économie, à part quelques exemples très ponctuels, je trouve que ces modèles ne sont pas très utiles parce que supposer qu'on n'a pas de transfert, c'est vraiment une hypothèse très très restrictive. D'abord, ça exclut toute tarification parce que par définition, une tarification, c'est un transfert et si vous pouvez ajuster un prix, ça veut dire que vous pouvez diminuer plus ou moins l'utilité du vendeur au bénéfice de l'utilité de l'acheteur. Ça suppose tout, enfin pas seulement une tarification au sens d'un prix, mais tout système de paiement. Donc si vous parlez d'un ménage, vous supposez qu'il est impossible à un mari de donner de l'argent à sa femme pour qu'elle s'achète ce qu'elle veut. C'est encore pire que ça. Même si vous n'avez que des biens publics, vous supposez qu'il est impossible, par exemple, au mari de faire des concessions en disant « j'accepte qu'on achète un peu moins de ce bien public-là et un peu plus de celui-là parce que je sais que tu préfères le premier ». Tout ça, vous supposez au départ que c'est impossible. Ce n'est pas très convaincant. Donc je préfère de loin ce genre de modèle dans lequel c'est le cas polaire inverse. Ce qui se passe quand vous mariez X et Y, c'est que ça crée un surplus total. Après, ce surplus va être partagé. Alors, il se trouve que la technologie de partage est vraiment simple, parce que c'est ça l'utilité transférable. Il y a un taux de change qui est égal à 1. Autrement dit, si vous diminuez mon utilité de 1, ben, l'utilité de mon épouse augmente d'exactement 1. Ce qui est intéressant, c'est que ça, à ce moment-là, c'est endogène à l'équilibre. C'est-à-dire que ce que vous définissez comme un équilibre, c'est d'une part une mesure sur l'ensemble produit qui vous dit qui épouse qui, avec quelle probabilité, mais aussi une façon de répartir ses gains, et ça, c'est vraiment ce que je trouve intéressant dans ce genre de technologie. Alors, on sait, il y a un lien très, très étroit avec le modèle collectif, on sait exactement ce qu'il faut supposer sur les fonctions d'utilité pour avoir de l'utilité transférable. On n'a pas besoin de la quasi-linéarité, on a besoin d'une quasi-linéarité généralisée qui ressemble à ça. Alors, le concept de stabilité, c'est ça. Concept de stabilité, bon, c'est peut-être pas complètement évident, mais imaginez que cette inégalité... U de X, c'est l'utilité qu'aura monsieur X à l'équilibre stable. V de Y, c'est l'utilité qu'aura madame Y à l'équilibre stable. Maintenant, imaginez que cette inégalité soit renversée, strictement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que monsieur X et madame Y ont tort de rester dans leur situation actuelle parce qu'en se mariant ensemble, ils auraient ils créeraient un gâteau suffisamment grand pour améliorer la situation des deux. Ça, c'est la négation de la stabilité. Alors maintenant, oubliez la notion de stabilité, posons-nous un problème qui est très familier pour un économiste, qui est Pareto-efficacité. Essayons juste de maximiser le surplus total. Et en utilité transférable, ça a du sens d'additionner le surplus entre les différents agents. Donc là, vous avez un programme. Ça, c'est ce que les mathématiciens appellent un programme de transport optimal. Donc c'est Monge-Kantorowicz. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aussi programmation linéaire, parce que vous cherchez une mesure qui maximise quelque chose, mais qui est linéaire par rapport à la mesure. Entre parenthèses, ici, ce H devrait être un mu. Et puis, la contrainte sur la mesure, c'est que la marginale de mu sur X, c'est F, et la marginale de mu sur Y, c'est G. Ces contraintes sont aussi linéaires. Donc, c'est un problème de programmation linéaire. L'un des grands avantages de la programmation linéaire, c'est qu'il y a un programme dual. Et si vous regardez la structure du programme dual, vous allez chercher maintenant, au lieu de chercher une mesure, vous allez chercher les fonctions U de X et V de Y, solution de cette minimisation sous des contraintes. Et ce que vous avez comme contrainte, c'est très exactement les contraintes de stabilité. De là sort un théorème qui est bien connu. Ça, ça date de Chaplet et Chubik. En fait, ça date d'avant Chaplet et Chubik, mais ça a été repris par Chaplet et Chubik. C'est que, existe-t-il un équilibre stable ? Oui, si et seulement s'il existe une solution au programme de maximisation. Or, le programme de maximisation, c'est très facile d'avoir une solution. Donc, ça nous donne de l'existence, ça nous donne une unicité générique de la mesure, etc. Alors, à aucun moment, vous avez besoin de supposer que les ensembles peuvent être multidimensionnels, doivent être de dimension 1. Et en fait, on est en train de travailler maintenant à des modèles multidimensionnels dans lesquels les gens se matchent sur plusieurs caractéristiques. Il y a des choses assez intéressantes qui apparaissent. Alors, j'ajoute qu'on a un papier avec Rob McCann, qui est un mathématicien spécialiste de programmation linéaire, et Lars Nesheim, qui est un économiste, plutôt économiste mathématicien, dans lequel on montre que ces deux choses-là, les modèles de matching sont équivalents au modèle de transport optimal, mais sont aussi équivalents au modèle hédonique. Donc, pour le même prix, vous avez des théorèmes généraux d'existence et d'unicité dans les modèles hédoniques. Supermodularité, bon, je suppose que les gens sont familiers, mais supermodularité, ça veut dire quoi ? Maintenant, on se met en dimension, hein, explicitement. On va supposer qu'on va prendre deux hommes, X et X' et X est plus grand que X', deux femmes, Y et Y', et on va supposer que Y est plus grand que Y'. À ce moment-là, si vous mariez les deux riches et les deux pauvres, vous avez un surplus total plus grand que si vous faites de la mixité. Ça, c'est la définition classique de supermodularité. Si tout est deux fois différenciable, c'est équivalent à ça, et ça, c'est la condition de Spence-Morlis. En fait, il y a plein de calculs là-dedans qui ressemblent aux calculs qu'on a dans la théorie des contrats standards, à la Ganeri-Lafond, etc. C'est un peu la même technologie, ce qui aide beaucoup la vie, d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on peut transposer directement un certain nombre d'approches. Je vous en donnerai un exemple. Du coup, là, dans ce cas-là, l'appariement est unique et assortatif au sens où la personne la plus riche épouse la personne la plus riche, la deuxième personne la plus riche épouse la deuxième personne la plus riche, etc. Alors ça se généralise en dimension supérieure. Ça, je vous l'épargne. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, qui m'intéresse de plus en plus maintenant, et qui va m'intéresser notamment dans Stokes, c'est ce qu'on appelle l'utilité imparfaitement transférable. Ça, c'est les situations dans lesquelles les transferts sont possibles, mais la transférabilité est imparfaite au sens où le taux de change entre l'utilité numérique et l'utilité de la femme n'est pas égal à 1, et surtout n'est pas constant. Donc quand vous changez les conditions du marché, vous changez les distributions extérieures, vous changez le taux de change. Et même à marché donné, d'un couple à l'autre, le taux de change n'est pas le même. Alors, mathématiquement, c'est assez facile à représenter. Ça veut dire simplement que vous avez une frontière de Pareto pour n'importe quel niveau d'utilité de la femme, V de Y. Si vous mariez, au cas où vous marieriez M. X avec Mme Y, eh bien vous avez une frontière de Pareto qui est définie par l'utilité maximum que M. X peut avoir compte tenu de l'utilité de Mme Y. Et la stabilité, c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est l'exact équivalent des conditions de stabilité. Pourquoi est-ce que ces modèles d'utilité imparfaitement transférables, qui sont moins faciles à manipuler que l'utilité transférable, notamment parce que c'est plus du tout équivalent à une maximisation. On n'a plus cette magnifique propriété que c'est le dual d'un problème de maximisation. Donc, en particulier quand vous faites du numérique, vous prenez le modèle de maximisation, on a des algorithmes qui font ça à toute vitesse, vous résolvez ça, vous calculez le dual et tout va bien. Là, ça ne marche plus. Pourquoi néanmoins est-ce qu'on veut s'intéresser à ce genre de modèle ? Ben, les modèles d'utilité transférable ont une énorme faiblesse. Bon, d'abord, ils sont sans friction, ce qui peut dans certains cas être un problème. Bon, ça dépend un peu du problème. Mais ils ont un autre inconvénient, et l'inconvénient est le suivant. Prenez un modèle à utilité transférable dans un cadre de comportement de ménage que vous spécifiez. Donc vous avez un ménage, vous avez des biens privés, vous avez des biens publics. La façon dont les gens dégagent un surplus de façon abstraite, c'est de façon très concrète, en achetant des biens privés, en achetant des biens publics et en se répartissant les ressources et en dégageant de l'utilité comme ça. Les modèles à utilité transférable ont la propriété suivante. Les comportements du ménage sont les mêmes pour tous les optimums de Pareto. En français, si vous changer la location du pouvoir du mari à la femme, ça change une consommation privée, mais ça ne change pas la demande de biens publics. Donc dans un modèle à utilité transférable, ce que vous ne pouvez pas regarder, c'est est-ce que le basculement du pouvoir de la femme vers le mari ou du mari vers la femme peut avoir un impact sur les dépenses sur les enfants, par exemple. Si vous faites de l'utilité transférable, vous supposez que ce n'est pas le cas. Alors, l'utilité transférable, entre parenthèses, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire avant, le modèle d'utilité transférable, c'est Becker qui a introduit ça. Enfin, ça date d'avant Becker, mais le fait d'utiliser ça de façon systématique pour l'analyse du marché du mariage, c'est Becker. Et en fait, beaucoup des choses qu'on fait maintenant, c'est des intuitions qui, au départ, se trouvaient chez Becker. Ce qu'on fait, c'est qu'on continue de creuser dans la même direction. Mais ça me semble beaucoup plus intéressant. D'un autre côté, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce dont quoi je voudrais parler dans les 10 minutes qui me restent, c'est vous convaincre que maintenant, on commence à développer les technologies nécessaires pour savoir faire ce genre de choses. Alors, une chose que je ne vais pas faire, si je vais le faire très brièvement, je vais vous montrer un peu comment, en pratique, je vais vous parler de deux modèles spécifiques. Je vais prendre un tout petit modèle en utilité transférable, ensuite un tout petit modèle en utilité non transférable, et puis je vais vous montrer comment ça marche. Alors, en utilité, par exemple, en utilité transférable, le modèle classique, ça, on a plusieurs papiers là-dessus, c'est vous avez un surplus qui dépend de la somme des revenus, ça va bien avec le modèle collectif. Vous avez, il est super modulaire, ça aussi, ça va bien avec le modèle collectif. Et ce que je voudrais juste vous montrer, c'est comment il est très facile dans un modèle comme ça, décrire les conditions d'équilibre, c'est-à-dire les conditions de stabilité, et de retrouver immédiatement la répartition du surplus à l'intérieur du ménage, qui est vraiment ce qui m'intéresse. Et en fait, c'est surprenamment simple. Vous écrivez la condition de stabilité. Et la condition de stabilité, ça s'écrit comme ça, parce que vous avez toujours le membre de gauche est toujours supérieur aux membres de droite, sauf quand ils sont mariés, auquel cas vous avez une égalité. Donc vous avez ça. Puis vous écrivez soit les conditions du premier ordre pour la maximisation, soit le théorème de l'enveloppe de ce côté-là, et vous avez cette propriété-là. Vous intégrez, et vous avez vos résultats. Vous écrivez votre modèle avec deux lignes de calcul. Vous avez une solution close-forme de la répartition. Vous avez les conditions d'équilibre qui vous disent la façon dont les revenus sont, dans les ressources sont réparties à l'intérieur du ménage. Après, si vous avez un modèle collectif derrière, vous pouvez traduire ça en consommation individuelle, etc. Bon, vous avez des moyens de fixer la constante, mais prenons un exemple très simple. Imaginez que la distribution des revenus chez les hommes et chez les femmes était la propriété suivante, elles se déduisent l'une de l'autre par une translation de ce type-là. Par exemple, imaginez qu'elles soient toutes les deux logs normales, donc le log du revenu suédois normal. La moyenne n'est pas la même entre les hommes et la femme, mais la variance est la même. Ça marche dans ce cas-là. Et en fait, c'est assez vrai dans les données. Ça marche assez bien avec les données. Ben, dans ce cas-là, vous pouvez faire le calcul. Vous n'avez même pas besoin de spécifier la fonction h, et voilà ce que ça vous donne. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est... souvenez-vous de la question dans laquelle j'étais parti. Vous avez cette énorme augmentation de l'éducation, donc des revenus féminins. Quel impact ça a sur l'allocation à l'intérieur du ménage ? Ben là, vous avez la solution, parce qu'une augmentation des revenus féminins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lambda a changé. Hein, ce que ça vous dit simplement, c'est que la distribution des femmes, c'est lambda fois celle des hommes. Vous changez lambda. Pour savoir quel impact ça a, vous avez qu'à différencier ce genre de choses par rapport à lambda. Donc, prenons l'utilité de la femme, par exemple, et imaginons que lambda a augmenté. Ben, vous avez deux choses. Alors, comme il y a toujours assortativité, en un sens, le même homme se marie avec la même femme, mais la même femme est maintenant plus riche. Il y a le gâteau qui partage est plus grand, parce que le surplus est croissant. Donc il y a ce supplément de surplus qui est ce XH' ici, et qui est réparti suivant la même grille qu'initialement, c'est-à-dire il reçoit 1 sur 1 plus lambda, et elle reçoit lambda sur 1 plus lambda. Donc si lambda est plus petit que 1, si les femmes sont plus pauvres que les hommes, il reçoit plus qu'elle. Vous avez un deuxième terme, qui est la correction, liée au fait qu'en plus, vous avez un changement des pouvoirs. Vous avez une variation du prix d'équilibre. Et donc, en plus de ça, vous avez une redistribution de l'homme vers la femme, qui est ce terme-là. Et vous voyez, le modèle est élémentaire, mais vous pouvez très facilement le calibrer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des effets d'équilibre général, c'est des vrais effets d'équilibre général, et qui sont faits avec une technologie très simple. Alors, bon, on peut mettre ça maintenant de façon économétrique, et ça, je ne vais pas vous en parler parce que je n'ai pas le temps, mais dans les 7 minutes qui me restent, je vais vous parler des modèles à utilité imparfaitement transférable, parce que ça, c'est tout neuf, tout chaud. Donc, comme je le disais, la limitation des modèles à utilité transférable, comme tous les optima de Pareto correspondent au même comportement agrégé, vous ne pouvez pas avoir qu'une redistribution de pouvoir affecte la structure des dépenses. Or, on sait dans la littérature empirique et même la littérature théorique, mais en équilibre partiel, que c'est des effets importants. Alors, les modèles à utilité imparfaitement transférable, ils marchent. Je vais essayer de vous expliquer un peu la théorie. Et puis ensuite, je vous donnerai une application sur un modèle spécifique. Alors d'abord, à quoi ressemble la théorie ? La théorie fonctionne exactement comme précédemment. On n'a pas l'interprétation duale en termes de maximisation, mais il se trouve qu'ici, on n'en a pas besoin. Voilà la condition de stabilité. Vous avez toujours le droit d'utiliser le théorème de l'enveloppe ou d'utiliser les conditions du premier ordre. Et les conditions du premier ordre vous redonnent ça. Et vous voyez que ça vous donne V' de Y en fonction de la fonction de surplus. Donc si vous avez une équation différentielle en V de Y, qui est l'utilité de la femme, il suffit d'intégrer cette équation et vous avez, encore une fois, si vous avez en close form, si vous avez des solutions en close form, vous avez la répartition entre l'homme et la femme. Il y a des conditions pour avoir, alors est-ce qu'on a assortativité ou pas ? Ça devient un peu plus compliqué. Et là, je vous passe les détails, vous pourrez les voir dans le papier, mais c'est exactement des techniques empruntées à la théorie des contrats. Enfin, c'est l'utilisation de Spence-Morlis complètement classique à la Gainerie Lafont. Mais en fait, on sait tout à fait trouver des conditions qui permettent d'avoir assortativité, etc. Alors, juste pour finir, voilà un modèle spécifique, très simple, mais qui vous montre comment on peut avoir tout ce que je voulais avoir, c'est-à-dire endogénéité de la répartition des ressources à l'intérieur du ménage, deuxièmement, complète hétérogénéité des deux populations, et troisièmement, un impact de la variation des pouvoirs sur les comportements agrégés, avec un modèle relativement simple. Alors voilà quel est le modèle. D'abord, qu'est-ce qu'on a en tête ? On a cette idée que les époux ont une attitude différente vis-à-vis du bien public, et ça va être un modèle dans lequel, quelque part, la femme aime beaucoup plus le bien public que l'homme. Vous allez voir dans quel sens dans une minute. Et on veut que des variations de pouvoir affectent la structure de consommation, parce que si la femme a plus de pouvoir, et bien à ce moment-là, comme elle préfère le bien public, il y aura plus de dépenses au bien public. Donc c'est ce genre de choses qu'on va modéliser. Donc j'ai un continuum d'hommes et de femmes, c'est X et Y, c'est les revenus, il y a un bien public et un bien privé. Je suis dans une logique de translation de distribution, parce que ça rend ma vie plus simple. Alors les préférences, c'est ça qui est crucial. Préférences des hommes, elles sont standards comme Douglas, donc le bien public et le bien privé sont complémentaires. J'aime d'autant plus le bien public que j'ai une forte consommation de mon bien privé. Pour les femmes, les choses sont différentes. Les femmes sont altruistes au point que les deux sont parfaitement substituables. Donc ce que ça vous dit, c'est qu'il y a un niveau minimum de consommation pour les femmes qui est ce CBA. Mais au-delà de ce niveau, chaque dollar supplémentaire, la femme est complètement indifférente entre la consacrer au bien public ou la consacrer au bien privé. Donc la femme aime tellement le bien public que si on lui dit « vous avez un dollar de consommation en moins, mais les enfants ont un dollar en plus », pour elle, c'est exactement la même chose. Pour l'homme, pas du tout. Alors ça implique notamment qu'une allocation efficace, la femme n'aura pas plus que ses barres. Parce que ça serait inefficace de lui donner plus que ses barres. Il vaut beaucoup mieux investir le dollar supplémentaire dans du bien public. Pour elle, ça ne change rien. Et évidemment, pour le mari, ça augmente son utilité. Donc on a exactement cette idée d'asymétrie de préférence entre l'homme et la femme. Vous pouvez trouver la frontière de Pareto, bon, c'est pas très compliqué, hein. Vous avez une solution explicite de la frontière de Pareto. Et puis vous pouvez vérifier les conditions sur lesquelles je suis passé à toute vitesse tout à l'heure. On a bien assortative matching, on a bien un pariement assortatif ici. Vous pouvez écrire l'équation différentielle en question, l'équation que j'avais avant, voilà à quoi elle ressemble ici. Il se trouve qu'on trouve une solution explicite, non pas sur la fonction V, mais sur l'inverse de la fonction V, ce qui revient exactement au même du point de vue graphique. Et vous pouvez faire des choses comme ça. Alors, en bas, vous avez le revenu du mari, sachant qu'on a pariement assortatif. Donc le revenu de la femme, dans cette simulation-là, le revenu de la femme, c'est exactement 0,8... enfin 20% de moins que le revenu du mari. Donc la distribution des revenus chez la femme, c'est la distribution des revenus des hommes décalée de 20%, et il y a assortativité de l'appariement. Bien, alors ce que vous avez, c'est ici, en fonction de la richesse du mari, donc, et aussi de la richesse de la femme, puisque les deux sont exactement corrélés, l'utilité de la femme, l'utilité du mari, la consommation de biens privés du mari et la consommation de biens publics. Donc ce que vous voyez, c'est que les consommations augmentent avec la richesse, mais en fait, ce qui augmente surtout, c'est les consommations de biens publics. Alors, encore une fois, j'ai pris des utilités particulières, mais ça peut se calibrer. Hein. Vous pouvez faire le même genre de calcul. Alors beaucoup plus intéressant, maintenant, on va faire de la statistique comparative là-dessus. On va imaginer que tous les revenus féminins sont accrus de 25%, ce qui fait que maintenant, la distribution des revenus des femmes est la même que celle des hommes. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous voyez que l'utilité, alors en gras, c'est les utilités avant, en maigre, c'est les utilités après, ça c'est les utilités des femmes, ça c'est les utilités des hommes. La première chose, c'est que tout le monde y gagne, surtout les hommes. Mais ça, c'est pas très surprenant, parce que les femmes sont plus riches. Ouais, je vous l'explique pas pour le moment. Essayez de comprendre pourquoi, le slide d'après l'expliquera. Mais en fait, on peut jouer avec ces modèles, et c'est finalement des modèles assez riches. Bon, je passe tout de suite au slide d'après, en fait. Ça, c'est les consommations. Entrée plein, c'est avant, entrée en pointillé, c'est après. Ça, c'est la consommation privée du mari, et ça, c'est la consommation de biens publics. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous augmentez les revenus féminins. D'une part, chaque ménage est plus riche, parce que le même homme est marié avec la même femme, et la femme a 25% de revenus en plus. Donc, chaque ménage est plus riche, donc ils vont dépenser plus. Ce qui m'intéresse, c'est combien plus de biens privés et du bien public. Et je ne veux surtout pas faire l'hypothèse qu'ils vont garder la même proportion, ce que serait une logique d'échelle d'équivalence. Tout mon modèle, c'est l'inverse, c'est de dire la façon dont ça va être augmenté est endogène et déterminée par les relations de force que j'ai modélisées dans mon modèle d'équilibre. Alors en fait, ce que vous dit le modèle, c'est la chose suivante. La consommation privée du mari, elle augmente très très peu, spécialement pour les gens riches. Elle augmente pratiquement pas. Parce que pour les gens riches, il y a beaucoup de concurrence en fin de... Ce qui augmente énormément, c'est la consommation de biens publics. La consommation de biens publics, elle augmente pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont plus riches, donc ils peuvent s'offrir plus de biens publics. Mais en plus, la femme a plus de poids. La logique de ce genre d'équilibre, c'est que la femme a gagné du pouvoir à l'intérieur du couple. C'est un pouvoir de marché, hein, c'est un modèle de marché, mais elle a plus de pouvoir. Et comme elle a plus de pouvoir, elle va être capable d'orienter la consommation plutôt vers le bien public. Si vous regardez ce ménage-là, l'homme est très insatisfait de la distribution qui est faite, de la répartition qui est faite de la consommation totale entre sa consommation privée et la consommation publique. Souvenez-vous que pour lui, il a une cope Douglas entre les deux, donc l'idéal, ce serait de dépenser 50% sur l'un, 50% sur l'autre, on en est très loin. Et ça, c'est le fait que la femme ait tiré ça dans sa direction. Donc en un sens, c'est un modèle qui vous donne exactement le genre de choses qu'on pourrait vouloir. C'est un tout petit modèle. Il n'est même pas calibré, hein, c'est juste une illustration, mais ce que ça vous montre, c'est qu'il est possible d'utiliser ces outils pour construire quelque chose et pour calibrer quelque chose de façon beaucoup plus sérieuse, mais qui vous permettent d'avoir ces effets d'équipe générale avec une richesse relativement grande, sans avoir des calculs qui partent dans tous les sens, et surtout dans la robustesse et sujette à caution, parce que vous avez l'impression que tout repose sur les hypothèses numériques. Là, il y a vraiment une logique de fond qu'on peut voir assez facilement. Je conclue. Premièrement, l'allocation intra-ménage doit être prise en compte. Ça, c'est ce que je dis depuis 15 ans, 20 ans. Donc, j'y crois vraiment. Deuxièmement, les effets d'équipe généraux sont cruciaux. C'est-à-dire, le modèle collectif, je pense que c'était une contribution utile, mais c'était vraiment le point de vue équipe partielle. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de se déplacer vers l'équipe générale. Troisièmement, les modèles d'application, d'appariement sont particulièrement commodes. Alors, ils ont l'avantage, ils ont l'inconvénient de ne pas parler de friction, et puis surtout, pas de friction, à la limite, c'est pas très grave, mais d'être un peu trop mécanique. Ce que vous disent ces modèles, c'est l'homme le plus riche épouse la femme la plus riche, le deuxième homme le plus riche épouse la deuxième femme la plus riche, et ainsi de suite. En réalité, c'est pas ça. En réalité, il y a des hommes riches qui épousent des femmes pauvres, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'aléa. Alors, si vous voulez mettre de l'aléa, une façon, c'est de mettre des frictions, c'est-à-dire s'il y a du search, je suis tombé sur une femme et je n'ai pas cherché plus loin. Une autre façon, c'est de dire qu'il y a un matching multidimensionnel, il y a des caractéristiques que nous, économètres, on observe, le revenu, puis il y a des caractéristiques qu'on n'observe pas. On traite ça en économétrie standard, comme des chocs, et ensuite on refait ce genre de choses en mettant une composante stochastique. J'ai passé pas mal de temps, notamment avec mes copains mathématiciens de Nice, parce que Nice, il se trouve qu'à la fac de Nice, il y a une des meilleures écoles en France sur le transport optimal, donc je suis allé les voir et je leur ai dit, mais est-ce que vous avez des versions probabilistes de ces modèles de transport optimal? Il se trouve que les mathématiciens n'ont jamais regardé ça. Qu'est-ce qui se passe dans un modèle de transport optimal si vous mettez des chocs? On ne sait pas répondre en général. Mais il y a des cas particuliers où on sait répondre. Le papier empirique avec Bernard Salagnier, il y aura un mois, dont je vous parlais, c'est un cas dans lequel on sait répondre. Donc on sait faire des études empiriques là-dessus, mais il y a encore énormément à faire là-dessus. Message suivant, on peut sortir du cadre utilité tensionnaire. Il y a beaucoup de gens qui disaient, à mon avis, avec une bonne part de raison, les modèles à la Becker sont intéressants, mais l'utilité transférable, c'est beaucoup trop étroit. Le comportement des ménages est complètement émasculé, parce qu'on enlève tout ce qui est relation de pouvoir, etc. Or, c'est probablement une des choses les plus importantes. Est-ce qu'on peut sortir de ce cadre? La réponse est oui, et on a des technologies pour sortir de ce cadre. Alors, application, on peut faire la théorie. Hein, ce que je vous ai montré, c'est une ébauche de théorie. L'économétrie, on sait faire ça. Alors, pour être tout à fait honnête, on sait faire ça avec des catégories discrètes. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de faire ça avec des variables continues, pour des raisons qu'on pourra discuter, si ça vous plaît. On pourrait faire de la calibration. Il semble que les macroéconomistes commencent à s'intéresser à ce genre de questions, notamment les questions de répartition à l'intérieur du ménage. Les macroéconomistes, ils font plus d'économétrie depuis belle lurette, mais ils font de la calibration. Alors ça, la calibration, avec ce genre de technologie, c'est assez facile à faire. Et le vrai problème de la calibration, c'est quels seraient les moments qu'il faudrait essayer de matcher. La calibration, vous donnez une liste de moments, vous essayez de prendre des paramètres qui matchent ces moments. Alors maintenant, quels sont les moments pertinents? Ça, c'est un territoire complètement inexploré. Donc ce que je veux dire là, c'est qu'il y a un immense territoire qui s'ouvre. Je pense que c'est des problèmes importants et je pense qu'au moins on a des façons de penser ces problèmes qui nous permettront d'avancer. Et maintenant, bon, c'est un peu un domaine de recherche en train de s'ouvrir. C'est vraiment mon idée là-dessus. Merci.
Merci. J'imagine qu'après un tel exposé, toutes catégories confondues, nous avons des questions, pas mes femmes. Oui.
Oui, il y a quelqu'un d'autre qui travaille.
Non, mais quand je fais une présentation du modèle collectif et que j'essaye de défendre cette idée que dans la réalité, on a des preuves empiriques très convaincantes du fait que donner le revenu donner un dollar au mari ou à la femme, ça fait une différence sur les outcomes, enfin sur ce qui en sort. L'un des meilleurs papiers, sinon le meilleur papier là-dessus, c'est un papier d'Esther, qui est sur la réforme, sur une, elle a étudié de très près une réforme en Afrique du Sud, avec une stratégie très très intelligente, une stratégie de double différence, mais très intelligente pour éviter tout biais de sélection. Et elle, donc, il se trouve qu'il y avait des... c'était quelque chose comme un minimum vieillesse qui était réservé aux Blancs. Le minimum vieillesse était un niveau très bas, donc ça touchait une toute petite fraction de la population blanche. Et puis à la chute de l'apartheid, on l'a offert à tout le monde. Évidemment, un niveau très bas pour la population blanche, c'est un niveau qui représente 30% de la population noire. Donc on a une énorme masse de gens vieux, âgés, hein, c'est le minimum vieillesse, qui ont reçu. Mais il y avait des conditions d'éligibilité. Il fallait avoir travaillé dans le secteur formel pendant un certain nombre d'années, etc. Donc dans certains ménages, le grand-père a reçu, dans certains ménages, la grand-mère, et dans certains ménages, les deux, dans d'autres ménages, personne. Et alors la question, c'est est-ce que ça fait une différence que ça soit la grand-mère plutôt que le grand-père. Alors, a priori, le problème, c'est que l'éligibilité, ça pourrait donner de la sélection. Et là, elle a une technique très, très astucieuse pour faire ça. Et en fait, elle trouve que vous donnez l'argent au grand-père, ça ne fait aucune différence sur le bien-être des enfants. Vous donnez l'argent à la grand-mère, sur le bien-être des enfants, et notamment des filles, ça les amène pratiquement à mi-chemin entre leur situation initiale et la situation de la fille américaine moyenne. Donc, il y a un impact absolument spectaculaire. Donc, oui, absolument. Alors la seule chose, c'est que Esther est très empirique. C'est-à-dire que l'idée d'Esther, c'est vraiment, on a des théories, et puis par derrière, quelle que soit la théorie, on va essayer de mettre en place notamment soit des expériences naturelles, soit encore mieux des expérimentations explicites pour voir ce que ça va donner. Moi, je suis un grand lecteur des travaux d'Esther. Je pense qu'elle connaît aussi au côté des choses. Enfin, on se parle, quoi. Je pense que c'est assez complémentaire.
Oui, moi, une toute petite question. C'est un truc qui n'a pas été évoqué parce que vous n'avez pas le temps. Mais c'est, c'est quelque chose que vous n'avez pas évoqué parce qu'il n'y avait pas assez de temps, évidemment. Mais d'un point de vue très concret, comment est-ce qu'on peut percuter avec ce type de modèle la différence entre un mariage et une union libre, par exemple?
Excellente question. Et ça, c'est le genre de choses. Je pense que c'est une vraie question théorique, mais c'est une question, quand on fait des travaux empiriques, à laquelle il est très difficile d'échapper, parce qu'on a des données sur les couples, et dans certains cas, c'est les couples mariés, dans certains cas, c'est les cohabitants. Dans la plupart des bases de données, on a les deux, et on ne sait pas quoi faire. Mais ça ramène à une question conceptuelle profonde, qu'est-ce que c'est que le mariage? Ce genre de technologie, ça insiste sur un aspect qui est, je dirais, un aspect très matériel. C'est le fait qu'on a des biens publics. Quelque part, là, ça vous dit, il y a quelque chose qui s'appelle un bien public, mon interprétation naturelle, ce serait les enfants, mais ça pourrait être le logement, ça pourrait être autre chose. L'idée du mariage, c'est qu'on crée une collectivité qui a un avantage comparatif au sens de la production et de l'utilisation de ces biens publics. Si c'est ça, j'aurais tendance à dire, on voit mal quelle est la différence entre le mariage et la cohabitation. D'un autre côté, il y a toute une gamme de modèles dans lesquels on regarde des aspects dynamiques. Et les aspects dynamiques, ça peut être par exemple que une autre chose que peut faire le mariage, c'est des contrats de partage de risques. Alors là, dès qu'on met de la dynamique, et notamment du risque, arrive un autre type de considérations qui sont des considérations d'engagement. Et là, on peut penser, à mon avis, de façon utile, entre le mariage et la cohabitation. Au point actuel, ma réponse à ça serait le mariage, c'est du point de vue technologique à peu près les mêmes avantages et inconvénients que la cohabitation, mais c'est un degré d'engagement, de commitment supplémentaire. Donc s'il y en a des modèles, mais à ce moment-là, il faut des modèles intemporels, soit des modèles avec de l'incertitude. Et entre parenthèses, il existe une littérature qui étend non seulement le modèle collectif, mais en fait les modèles de matching, on a un ou deux papiers avec les mêmes usual suspects sur des versions dynamiques. Et là, je pense qu'on peut penser à la différence en ces termes-là. Mais il y a une vieille toute une littérature là-dessus. Les anthropologues ont beaucoup travaillé là-dessus. L'idée des anthropologues, par exemple, qui est d'ailleurs repris par ma collègue Lena Edlund à Columbia, c'est de dire la différence entre le mariage et la cohabitation, c'est que le mariage, c'est l'impact du mariage, c'est que si vous êtes marié, les enfants, la présomption, c'est que tout enfant né du mariage est fils du père ou fille du père. Donc, ce que vous vendez par un mari... Donc, elle dit explicitement, je modèle le mariage comme la femme qui vend au père un droit de paternité. une présomption automatique de paternité sur tous les enfants à venir. Et alors, à ce moment-là, elle a un modèle assez marrant là-dessus. Alors, c'est un modèle qui, à mon avis, pas assez d'hétérogénéité, donc qui est un peu spécifique. Et ça vient directement des anthropologues.
Le corollaire, est-ce qu'on peut maintenir l'hypothèse d'utilité transférable?
Pardon ?
Est-ce qu'on peut maintenir l'hypothèse d'utilité transférable ?
Alors, on a un papier avec Yoram et Weiss et Moratti. Nous, on discute très précisément qu'est-ce qu'il faut. En particulier, il y a dans cette littérature sur l'économie de la famille, il y a un vieux résultat qui est ce qu'on appelle le théorème de Baker-Coase, qui est un théorème qui vous dit la chose suivante. Si vous changez les règles relatives au divorce, vous ne pouvez pas changer le nombre de divorces. Et là, l'argument, c'est les gens divorcent quand c'est efficace. Ils divorcent pas quand c'est inefficace. Et ça, les règles d'allocation du surplus n'ont aucun impact. La seule chose que les règles d'allocation du surplus font, c'est qu'ils vont changer la répartition des ressources après le divorce, et d'ailleurs aussi avant le divorce, parce que par définition, si. Alors, on a un papier dans lequel on dit. Alors ça, c'est vraiment un résultat d'utilité transférable, parce qu'on sait que de façon générale, le théorème de cause en économie industrielle, il marche en utilité transférable. Donc on a un papier dans lequel on dit qu'est-ce que vous devez supposer sur un vrai modèle de comportement des ménages pour que ça marche, pour que le théorème de Baker-Coase marche. Et notre conclusion, c'est ça ne marche pas. Il faut faire des hypothèses qui sont des hypothèses tellement fortes que personne n'y croit. Donc dans le cas du divorce, je pense que... cela étant, je pense aussi que l'idée simpliste du genre le divorce... divorce at will... Le divorce par consentement mutuel conduit à moins de divorces que le divorce libre. Je ne connais pas les termes légaux français, mais il y a une législation qui est, si une personne veut divorcer, elle a le droit de divorcer, l'autre ne peut pas l'en empêcher. Alors qu'il y a une autre législation qui est, un couple ne peut pas divorcer, sauf si les deux sont d'accord pour divorcer. Et il y a toute la littérature américaine qui dit, est-ce que le fait qu'on soit dans un régime ou dans l'autre a un impact sur le divorce ? Et surtout le fait qu'on passe d'un régime à l'autre, parce qu'on a vu ça dans des États américains. Et la littérature théorique, la littérature théorique un peu simpliste d'avant Baker et un peu d'après Baker, c'était de dire oui, un divorce dans lequel il faut que les deux soient d'accord, enfin un régime dans lequel les deux doivent être d'accord conduit à moins de divorces qu'un régime dans lequel chacun peut partir. Baker dit ça fait aucune différence. Mais ça, c'est l'utilité transférable. Maintenant, si vous faites un modèle sans utilité transférable, vous apercevez que ça a un impact. Mais dans quel sens ça va, c'est pas du tout évident. Il est très facile de construire des modèles dans lesquels, si vous passez d'un accord nécessaire des deux à un divorce à la seule volonté d'une des deux parties, vous diminuez considérablement le nombre de divorces. Si vous voulez, le problème, c'est que la littérature naïve ne considère pas le fait que les règles du divorce ont un impact sur la négociation qui a lieu à l'intérieur du ménage dans le divorce. Et si on essaye de modéliser ça sérieusement... Donc, en résumé, on peut faire ça, et c'est vrai que l'hypothèse d'utilité transférable, dans ces cas-là, elle devient beaucoup plus difficile à maintenir.
Une dernière question.
Ah, sûrement. Sûrement, parce que... Quand je pense au comportement de fécondité, ben j'ai envie de dire la première chose, c'est que les enfants sont des biens publics. Et que la décision sur les biens publics, là j'appelle ça décision sur le nombre d'enfants, pardon, sur les dépenses pour les enfants, mais quelque part, on a l'impression qu'en modifiant pas beaucoup ce genre de modèle, on pourrait parler des décisions sur le nombre d'enfants. Alors ce qu'il faudrait, c'est essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on suppose en termes de préférence, sur les différences entre les préférences des hommes et les préférences des femmes en termes de fécondité. Par exemple, j'ai vu passer des tas de papiers, notamment sur des papiers empiriques sur les pays en voie de développement, qui partent de l'hypothèse que les hommes veulent plus d'enfants que les femmes. Ce qui semble assez évident, parce que quelque part, c'est les femmes qui portent le coup, enfin, qui portent l'essentiel du coup. Mais... est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que c'est vrai dans tous les pays? À la limite, alors on aurait besoin d'études ethnologiques pour nous dire ce qui est le cas. Mais je pense que oui. C'est-à-dire, je pense que c'est exactement le genre de choses. Tu peux introduire des comportements endogènes. Je ne dis pas que c'est fait. Ça demande du boulot. Il faut changer un peu la structure des modèles. Mais c'est une technologie qui, à mon avis, permettrait d'adresser ce genre de questions. Il n'y aurait pas besoin, d'ailleurs, il n'y aurait peut-être pas besoin de toute la grosse artillerie des modèles d'appariement, même dans un modèle collectif en équipe partielle, on peut déjà voir des tas de choses sur les analyses de fécondité. Il y a des gens qui ont commencé à faire ça. Mais je pense, enfin, dans les autres décisions importantes, là, on parlait des décisions de crise sur le fait qu'il y a, il y a trois décisions, c'est le boulot, la maison et la femme. Le fait d'avoir des enfants, ça doit être une quatrième. Donc, en fait, si on parle de décisions économiques fondamentales, ça, c'en est certainement une.
Bien, je pense que le sujet étant inépuisable, il faut laisser à la fois un peu de temps à Pierre André pour continuer ses recherches et probablement souhaiter que sa conférence a suscité des vocations. Je suis sûr qu'il sera très désireux de vous écouter, ceux qui ont des choses à dire sur le sujet, mais il est temps de conclure cette conférence. Pierre André, merci encore.
Merci à vous.